Dans l'évangile de Marc, il y a un personnage très mystérieux au moment de l'arrestation de Jésus. C'est un jeune homme vêtu d'un drap blanc. Et personne ne sait qui il est. Il est dit qu'au moment de l'arrestation du Christ, alors que tous l'abandonnent pour prendre la fuite, on nous dit donc à ce moment-là qu'un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. On se saisit de lui, mais il lâcha son drap et il se sauva tout nu. Cet épisode est curieux parce que aucun des autres évangiles n'en parle. Et pour tout vous dire, on ne voit pas très bien l'intérêt de ce tel détail. Ce qui fait que la plupart des commentaires bibliques aujourd'hui disent « il doit s'agir d'un détail autobiographique ». Et donc ça n'a aucun intérêt théologique, mais il devait s'agir de Marc lui-même. Et donc Marc se souvenait de cela et il met dans son évangile quelque chose qui le concernait. Je ne sais pas ce qu'il vous en semble, mais pour moi, cet argument me semble à peu près irrecevable. Comment penser que l'évangile de Marc, qui est le plus concis, le plus dense de tous les évangiles, puisse ainsi s'encombrer, entre guillemets, de détails autobiographiques? Si Marc avait dû mettre tous les détails autobiographiques de ce qu'il a vécu avec le Christ et qui n'avait aucun intérêt, il aurait fallu beaucoup plus que les quelques chapitres de l'évangile de Marc. Et donc, je suis convaincu depuis longtemps qu'il doit bien y avoir quelque chose là-dessous, qu'il ne faut pas sous-estimer l'évangile et que donc ce jeune homme en vêtements blancs demande certainement un supplément d'enquête. Alors j'ai cherché un petit peu et j'ai trouvé que dans l'évangile de Marc, ce jeune homme vêtu d'un drap n'est pas tout à fait inconnu. Et même, on le retrouve ailleurs, on le retrouve dans un autre passage. Pour cela, il suffit de regarder un peu les mots. Jeune homme, en grec, ça se dit néaniskos. Bon, je prends dans mon ordinateur, je cherche où est-ce qu'il est question d'un néaniskos. Ensuite, vêtu, en grec, ça se dit périballo. Je cherche dans mon ordinateur où est-ce qu'il est question d'un jeune homme revêtu de quelque chose. Et je m'aperçois qu'il y a effectivement un autre jeune homme vêtu d'un vêtement quelque part. C'est lors de la résurrection. Au moment où les femmes entrent dans le tombeau, elles y rencontrent, nous dit l'Évangile, un jeune homme assis à la droite, vêtu d'une robe blanche. Et nous avons là les mêmes mots qu'au moment du jeune homme de l'arrestation. Alors ça commence à m'intéresser. Parce que voilà que le jeune homme apparaît juste avant la mort du Christ et juste après. Alors on peut toujours se dire que ce sont des détails sans intérêt, mais je ne le crois pas. Quant au drap, là encore, une petite recherche s'impose. Où est-ce que l'on trouve quelqu'un revêtu d'un drap? Eh bien, on le retrouve aussi ailleurs. Et là, vous ne pouvez pas directement le voir parce que nos traductions nous induisent dans l'erreur. C'est qu'en effet, les traducteurs nous égarent. Ce qu'ils traduisent par « drap », c'est en fait le mot grec « syndon », et ce même mot est traduit ailleurs par « suaire ». C'est-à-dire que le jeune homme, au moment de l'arrestation de Jésus, n'est pas du tout vêtu d'un drap, il est vêtu d'un linceul. Ce même linceul que Joseph d'Arimathée va prendre pour envelopper le corps de Jésus lors de la descente de la croix. Alors vous voyez que ça fait quand même beaucoup de congruences. Voilà que notre enquête nous ramène une fois de plus à la croix, une fois de plus à la mort et à la résurrection du Christ. Décidément, par ailleurs, ce linceul n'a pas de chance, parce que voilà que deux fois de suite, il se retrouve sans le corps qui l'enveloppe. Avec le jeune homme, puisqu'il s'enfuit et les gardes tiennent le linceul tout seul et se retrouve avec un suaire vide, et également avec cet acharnement avec lequel Joseph d'Arimathée essaye de remettre un corps dans le suaire, et voilà que de nouveau, le corps échappe au suaire et le suaire se retrouve vide, dans le tombeau vide. De là, on peut tirer un certain nombre de choses. Et je crois qu'on peut même en faire une leçon de théologie, voire même deux. La première, c'est de se dire que le jeune homme est en fait un disciple et que par conséquent, il est l'image du croyant. Le jeune homme qui est au moment de l'arrestation est l'image de vous et de moi. Et que par conséquent, le texte peut nous enseigner la chose suivante, c'est que, comme le jeune homme de Gethsémané, nous devons nous aussi nous revêtir du suaire et que parallèlement à la mort du Christ, nous échappons à ce suaire. C'est-à-dire que le croyant doit en fait vivre la mort du Christ parallèlement à lui. Et que comme le Christ, nous sommes invités à être plongés dans la mort, et comme lui, nous sommes invités à ressusciter. C'est-à-dire que ce qui arrive au Christ, c'est en fait exactement ce qui nous arrive à nous. Cela, on peut l'entendre de deux manières. D'abord, comme Paul l'entend en disant que le Christ, il ressuscite pour montrer la voie, en quelque sorte, et que Jésus meurt et il ressuscite pour nous montrer ce qui nous arrivera à nous. Et donc, de la même manière, nous aussi, nous mourrons. Et de la même manière, nous ressusciterons. C'est-à-dire que notre mort ne pourra pas nous maintenir captifs, mais que nous pourrons, nous tous, comme le Christ a montré le chemin, traverser la mort et être libérés des liens de la mort. C'est là quelque chose de très important. C'est qu'en effet, la croyance, je dirais chrétienne, dans la résurrection, ce n'est pas de se dire, il y a 2000 ans, Jésus est apparu à X ou Y, et puis maintenant, sous-entendu, il n'apparaît plus, tant pis pour vous. Mais c'est bien de dire que la résurrection du Christ est le modèle de notre propre résurrection. Or, je n'attends pas que ceux que j'ai aimés et qui sont morts m'apparaissent comme Jésus est apparu aux disciples. Et donc, je crois que le message de Pâques ne concerne pas les apparitions aux disciples. Le message de Pâques, c'est de dire « Jésus a vaincu la mort ». Et il ne l'a pas vaincu simplement pour 40 jours où il apparaît aux gens qui sont là. Il l'a vaincu pour l'éternité. Et aujourd'hui encore, Christ est vivant. Et il a vaincu la mort comme nous, nous sommes appelés à être vainqueurs de la mort par lui. Et ce message, c'est bien de dire qu'aujourd'hui, la mort n'éteint pas une vie et que la mort n'annule pas une existence. Ce n'est pas parce que quelqu'un meurt qu'on peut dire « c'est fini, il est enterré, on n'en parlera plus ». Mais c'est bien de croire que justement il y a une puissance de la vie qui transcende la mort, qui traverse la mort, qui dépasse la mort. Et il y a dans la vie une force, une grandeur, une transcendance qui est au-delà de la mort physique. Comme aujourd'hui nous pouvons dire, Christ est vivant. Ça c'est l'affirmation de Pâques. Christ est mort sur une croix, mais oui, il est mort, physiquement il est bien mort, et pourtant il est vivant. Et pourtant nous vivons encore de lui. Eh bien, vous voyez, le jeune homme, justement ce jeune homme que l'on voit au moment de la mort de Jésus et que l'on retrouve au moment de la résurrection, eh bien, montre que le croyant traverse la mort avec Jésus et avec lui, il ressuscite. Il est appelé, comme le Christ, à être revêtu d'un suaire, mais en même temps, ce suaire est sans force et sans puissance. Ceux qui voulaient arrêter Jésus essayent de le tuer, mais en fait, ils n'ont qu'une carcasse vide, mais ils ne tuent pas la profondeur et la véritable valeur du Christ. De même, la mort médicale prétend nous tuer, mais en fait, elle ne tient qu'un suaire vide, et nous, nous échappons au suaire de la mort. Nous partons tout nus dans la présence du ciel, dans la présence de Dieu, et nous, nous nous retrouvons au tombeau, comme le tombeau vide, et là, de nouveau, le jeune homme se retrouve. Mais ce coup-ci, il n'est plus vêtu d'un suaire. Le suaire, il est là sur la banquette et il est vide. La mort n'emporte rien d'essentiel. Mais au contraire, il se retrouve vêtu d'une robe blanche et il se retrouve responsable, je dirais, de proclamer la parole. Et c'est ça, le vivant ressuscité qui se trouve à l'image d'un ange dans la présence de Dieu et qui devient, en quelque sorte, le porte-parole pour témoigner de qui est le Christ ressuscité et pour pouvoir proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile comme le fera l'ange. Eh bien, c'est effectivement ce que dira Paul à plusieurs reprises. Il le dit en Romains 6, au verset 4, lorsqu'il dit « Nous donc avons été ensevelis par lui, par le baptême, avec lui par le baptême dans sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » Mais il le dit aussi à un autre endroit, dans l'Épître aux Galates, où Paul dit « Oui, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Voici donc tout d'abord, la première leçon de théologie que nous donne ce jeune homme aux vêtements blancs. Mais il y en a une deuxième que l'on peut faire et qui est un petit peu plus audacieuse. Elle est un petit peu plus audacieuse parce qu'elle propose de dire qu'en fait, il y a une telle ressemblance entre le Jésus enveloppé du suaire de Joseph d'Arimathée et le jeune homme enveloppé du suaire au moment de l'arrestation, qu'on peut se demander si les trois personnages, du Christ, du jeune homme aux vêtements blancs et de l'ange, ne sont pas en fait un seul et même personnage. Et que là, nous avons le sens de l'histoire de Pâques. Il est vrai que le jeune homme explicite fort bien ce qui va arriver au Christ. Les gardes et les juifs veulent prendre Jésus pour le tuer, mais lui échappe à son sort et ils se retrouveront avec un suaire vide. De même que les gardes veulent prendre le jeune homme, pour le tuer, ils veulent l'attraper, mais ils se retrouvent avec un suaire vide. Et là, nous avons une première petite leçon de théologie qui nous dit que la mort du Christ ne concerne en fait qu'une enveloppe purement charnelle. Et que le Christ, d'une certaine manière, échappe, à cette mort et à cette ignominie qui lui sera imposée. Le Christ va échapper et qu'il va, justement, sortir de là dans une sorte de pureté, parce que sa dimension spirituelle échappe à ce projet meurtrier, puisqu'il vit éternellement. Cela, c'est le sens même de la résurrection du Christ, qui donc, vous le voyez, n'est pas tellement, une question d'apparition ou de Jésus qui reviendrait trois jours après pour faire un dernier petit coucou à ses disciples, mais une question infiniment plus profonde de ce qu'est la nature même du Christ et par là même la nature même de l'être humain et de ce que la mort peut faire de lui. Le texte nous dit que le jeune homme s'enfuit tout nu. Alors là, c'est assez intéressant parce que cela veut dire que le Christ ressuscité se retrouve à l'image d'Adam. En effet, Adam, vous le savez, avant la chute, était donc tout nu, puisqu'il était tout nu et il n'en éprouvait pas de honte, nous dit le texte biblique. Et donc cela veut dire que le Christ ressuscité se retrouve à l'image même de l'homme, du premier homme, tout nu, c'est-à-dire dans un état de perfection, dans l'état, d'immédiateté avec Dieu. Alors Joseph d'Arimathée ne va pas comprendre cela, et Joseph d'Arimathée qui est l'exemple du mauvais élève, l'exemple du mauvais disciple, de celui qui ne comprend rien et qui continue à s'attacher aux choses visibles et de s'attacher à la matière. Joseph d'Arimathée va vouloir enterrer le Christ, obsédé qu'il était, obsédé par le corps visible. Alors il va vouloir revenir en arrière. Et il va vouloir remettre un corps dans le suaire, alors que le Jésus s'était déjà échappé de la mort, en quelque sorte. Alors il va prendre le corps du Christ mort, il l'enveloppe dans un drap, mais c'est en vain, vous le savez bien, et le drap, le suaire, puisque c'est le même mot, se retrouvera vide, avec rien dedans. Et là nous avons, une affirmation très forte du message de Pâques. C'est que le Christ n'est pas dans son cadavre. Le Christ n'est pas dans son corps physique. C'est pour cela d'ailleurs que je regarde toujours avec une certaine nuance ou précaution, les gens qui veulent assimiler le message de Pâques avec les résurrections corporelles et physiques. Parce que je crois que c'est faire la même erreur que Joseph d'Arimathée et croire que la résurrection concernerait une dimension corporelle, alors que la résurrection, c'est une résurrection pour la vie éternelle. Et donc, c'est en vain, effectivement, que le drap sera mis dans le corps de Jésus, puisque de nouveau, il se retrouvera vide, avec rien dedans. Le Christ n'est pas dans son cadavre, et aucun des morts que nous avons aimés ne se trouve dans leur cadavre. La présence d'un mort, la présence de ceux que nous avons connus ou aimés, n'est pas dans leur corps, et elle est encore moins dans leur dépouille. Ils sont ailleurs, je dirais, d'une autre manière, d'une façon immatérielle, d'une façon invisible, d'une façon spirituelle. Et le mort ressuscité, on ne peut pas le vêtir, on ne peut pas l'enfermer, ni dans un suaire, ni dans un cercueil, ni dans un tombeau. Mais il y a un mode de présence qui fait exploser les dimensions matérielles et corporelles. C'est justement une autre manière de vivre. En effet, je vous l'ai dit, le drap se retrouve vide, et donc la présence du Christ n'est plus dans le corps physique. Et le message de Pâques, c'était primitivement le tombeau vide, c'est-à-dire il n'y a plus de corps. Tout ce que l'on sait, c'est que le tombeau est vide. C'est le seul point sur lequel les quatre évangiles sont d'accord. Le message de Pâques, c'est le tombeau est vide. Le tombeau ne renferme rien et le Christ n'est plus présent d'une façon corporelle et physique. Mais me direz-vous, si le drap est vide, si le suaire se retrouve tout seul sur la banquette du tombeau, si le tombeau est vide, alors où est passé le Christ ? Et c'est là que ma deuxième hypothèse d'interprétation de ces trois textes, plus audacieux, je vous le disais, peut donner une réponse. Si le jeune homme et de l'arrestation et le jeune homme de la résurrection est le même, cela voudrait dire que, en fait, c'est ce personnage en vêtements blancs, ce jeune homme en vêtements blancs que les femmes découvrent au tombeau, c'est le Christ lui-même. Et c'est ça, quelque chose que je crois assez vrai et auquel peu de gens, je crois, ont pensé. C'est de penser que ce jeune homme que rencontrent les femmes, c'est en fait le Christ, et qu'elles ne le reconnaissent pas, bien sûr, mais que c'est en fait lui. Il y a plusieurs éléments pour le dire. D'abord, le texte nous dit assez curieusement qu'il est assis à droite. Bon, là encore, est-ce que ça a le moindre intérêt que le jeune homme soit assis à droite ou à gauche ? Eh bien oui, ça a un intérêt pour moi. C'est que qui est celui qui est assis à droite du Père ? Eh bien c'est Jésus. C'est Jésus qui est appelé à être, qui est celui qui est appelé comme ça, il est assis à la droite. Donc il est assis à la droite. D'autre part, on nous dit qu'il est vêtu d'une robe blanche. Alors là encore, dans l'évangile de Marc, il y a quelqu'un qui est par ailleurs vêtu d'une robe blanche. C'est le Christ lors de la transfiguration. Sur le mont Tabor, eh bien, le Christ apparaît aux disciples revêtu d'une robe blanche. Donc, c'est bien Jésus. C'est bien Jésus qui apparaît là. Cela veut dire qu'il n'y a plus de corps mort, il n'y a plus de cadavre, et qu'à la place, il se retrouve avec un personnage en vêtements blancs, c'est-à-dire un ange, en quelque sorte. Or, l'ange, c'est un porte-parole. Et le vêtement blanc, c'est aussi, dirais-je, la tenue de service des anges. Les anges sont comme ça, ils sont vêtus en vêtements blancs. C'est comme ça qu'on les reconnaît dans l'Écriture. Cela veut dire que le Christ, qui était vivant parmi les disciples, meurt et qu'il ressuscite comme un ange. Il ressuscite comme un porte-parole de Dieu. Théologiquement, ça me semble très juste. En effet, l'évangile de Jean nous dit que Jésus, il est la parole incarnée. Et que Jésus, c'est la parole de Dieu qui se trouve pleinement présente dans un homme, pleinement homme. Eh bien, si on enlève la dimension purement humaine, physique et corporelle, qu'est-ce qui reste ? La parole. Et autrement dit, le Christ ressuscité s'identifie avec la parole. Et c'est au moment de la résurrection que le Christ devient justement la parole même, je dirais désincarnée en quelque sorte après la mort. Et il devient en quelque sorte un ange. Alors cet ange leur dira quelque chose d'assez curieux, puisqu'il va dire, parlant de Jésus, « Il n'est pas ici ». Alors je crois que ce n'est pas un mensonge qu'il dit pour brouiller les pistes. Ce que veut dire l'ange à ce moment-là, c'est que c'est vrai, que Jésus est là sans y être, et que d'une certaine manière, il ne se laisse pas enfermer par une localisation, une géolocalisation dans le tombeau. Jésus n'est pas là parce qu'il n'est pas matériellement présent dans ce tombeau. Parce que le Christ ressuscité n'a pas de mode de présence matérielle. Mais pourtant, il est bien là. Il est bien là spirituellement puisqu'il leur parle. Et c'est même comme ça que le Christ se rend présent par la parole et dans sa parole. Jésus, se désincarnant, vous disais-je, devient une pure parole. et c'est dans la parole de son évangile qu'il se rend présent et qu'il ressuscite en nous, non pas dans des lieux particuliers, et encore moins dans des images et dans des objets matériels, mais il se rend présent dans la parole. Les protestants sont très attachés à cette idée, puisqu'il y a une importance considérable donnée à la parole, et nous pensons que c'est la parole de l'Évangile, que c'est la prédication qui est le lieu même de la présence du Christ, et que c'est dans la prédication de la parole que le Christ se rend présent et vivant, et que c'est en lisant, en méditant, en relisant et en réfléchissant sur la parole, sur l'Évangile, que nous rendons le Christ présent en nous. Donc oui, le Christ est bien présent de cette manière-là dans la parole. Toujours est-il qu'il y a dans Pâques, je dirais, deux nouvelles. L'une qui est que la mort ne retient rien et que la mort est une puissance mensongère dont nous croyons qu'elle peut avoir un pouvoir, mais que la mort n'a pas de pouvoir. Et la mort et la résurrection du Christ prouvent d'une façon éclatante que la mort n'a pas de pouvoir. Les Juifs pensaient arrêter tout en tuant Jésus, mais ils n'arrêtent rien. Et la puissance spirituelle, la puissance de vie, le souffle du Christ traverse cette mort et la croix ne pourra pas stopper ce qu'a été le Christ et ce qu'il continue d'apporter à des millions de chrétiens aujourd'hui. Et donc la première nouvelle, c'est que la mort est impuissante, que la mort n'est qu'un suaire vide qui ne retient rien de l'essentiel. Et la deuxième nouvelle, c'est qu'il y a, il n'y a pas disparition du cadavre, mais que le corps réapparaît autrement et qu'il est revêtu autrement. C'est le seul changement dans le texte. Avant, le jeune homme est vêtu d'un suaire, c'est-à-dire d'une enveloppe charnelle mortelle, et ensuite il sera revêtu d'un vêtement blanc. Et donc la résurrection, c'est la transformation, comme dit Paul. En un clin d'œil, à la première trompette, comme dit encore Paul en 1 Corinthiens 15, nous sommes transformés et nous sommes changés dans un autre mode de présence qui est de l'ordre de la parole, qui est d'un ordre spirituel, mais peut-être surtout de la parole. Parce que la parole, c'est la transmission. La parole, c'est la relation. Et la parole, c'est l'amour. La parole, c'est ce qui, justement, circule d'une personne à l'autre. Et Paul nous le dira encore, et c'est un des fondements, je crois, de la foi chrétienne, que tout est passager, et tout ce qui est visible est temporaire et temporel, mais que la seule chose qui demeure éternellement, c'est l'amour. Mais l'amour, c'est une parole d'amour. L'amour, c'est une relation, l'amour, c'est une communication, l'amour, c'est une transmission. Et c'est dans ce sens que ceux que nous avons aimés sont vivants pour l'éternité, et c'est dans ce sens que le Christ lui-même est vivant, aujourd'hui, comme il y a 2000 ans, et pour toujours, tant qu'il y aura des êtres humains pour l'aimer et pour l'écouter. Amen.